Bonjour à tous et félicitations. Si vous êtes en vie, un nouveau journal de vlog, ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait. Au moins 3 semaines, hein, je pense. Parce que il y a eu 2 week-ends consécutifs où je n'étais pas chez moi. Et quand je suis pas chez moi, c'est très compliqué en fait, hein, de m'installer au bureau pour faire une vidéo. Cet humour, c'était unique. Donc je vais commencer par les choses vues récemment. J'ai fait une petite sélection parce que évidemment j'ai vu beaucoup de conneries, beaucoup de trucs divers et variés. Et tous ne méritaient pas forcément que je vous en fasse un petit compte rendu. Néanmoins, je suis allé voir donc l'Odyssée. Et alors, d'ailleurs, c'était au pâté de Angers, dans salle IMAX. Alors, salle IMAX, pas la 70, tout ça, hein, mais quand même, j'avoue que je crois que c'est la première fois que je regardais un film dans une salle IMAX. Ça m'étonne quand même, mais c'est possible. Des conditions absolument génialissimes. Il y a eu tellement, c'est normal, il y a eu tellement de retours que moi-même j'ai eu la nausée là, on pouvait plus t'entendre parler de ce film. Donc je vais pas vous faire un truc de 1000 ans parce que je pense que vous-même ça vous en avez ras le bol. Donc nouveau film de Christopher Nolan, je vous en ai déjà parlé évidemment depuis que j'ai ma chaîne. C'est à la fois un réal que j'aime beaucoup et à la fois un réal dont je suis pas fanboy quoi, je sais pas comment dire, hein. Donc il y a des films que j'ai énormément appréciés, comme Memento, Inception, enfin je vous les fais dans le désordre, mais en gros Interstellar, Oppenheimer, non d'ailleurs je viens de vous les faire dans l'ordre, je crois. Et il y avait des... Et ça va être ça tout le temps, à cause de la chaleur. Bah oui, à cause de la chaleur. Et il y a des films que j'ai pas du tout aimés, la trilogie Batman... Je lui ai redonné sa chance plein de fois, hein, pourtant, mais vraiment, ça ne passe pas, décidément. Et puis, d'autres films, voilà, enfin bon, Tenet, non. Bref, alors, tout cela n'enlève rien au fait que le mec est un des meilleurs réals en activité, évidemment. Et l'Odyssée, ça m'intriguait, d'abord parce que c'est un sujet que je maîtrise extrêmement bien, sans vouloir me faire des fleurs. Et pourquoi je maîtrise si bien ce sujet? Eh bien, tout simplement parce que je l'ai longuement étudié dans ma vie, et je le prouve, hein, voilà. Là, je crois que je te sors ça et tu dis « Ah ouais, non, niveau l'Odyssée, Alex, si tu veux, c'est un peu la référence, quoi. T'as un doute, tu lui demandes, quoi. » Bref, c'est un humour, c'est l'humour qu'on pratique passé 30 degrés, je pense. Ça démarre très fort, ça démarre très 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 fort. Je vous fais quand même le pitch, mais bon, d'ailleurs, c'est étrange parce que c'est un pitch très chelou que j'ai trouvé. C'est pourtant le truc apparemment officiel. Adaptation de l'épopée grecque antique, l'Odyssée d'Homère. Un poème relatant un épisode de la mythologie grecque, le retour du héros Ulysse dans son royaume d'Ithaque après la fin de la guerre de Troie et la façon dont il reprend le pouvoir en luttant contre les prétendants qui cherchent à forcer son épouse Pénélope à se remarier avec l'un d'eux. À travers une narration non linéaire, entremêlant plusieurs temporalités et points de vue, il alterne ainsi entre le voyage du retour d'Ulysse, le climat de tension qui règne à Ithaque, où Pénélope et Télémaque tentent de résister aux prétendants en son absence, et les souvenirs de l'assaut de Troie par les Grecs. Ouais, 3 heures, hein, il me semble, hein, ou pas loin. 2h50, peut-être un truc comme ça. J'ai beaucoup aimé, je vais tout de suite le dire. Dans le positif, le casting, j'ai énormément aimé la prestation de Matt Damon. Pour moi, ça c'est une prestation à Oscar, hein, carrément. Matt Damon, de toute façon, je l'adore, hein, depuis toujours. Là, ça fait vraiment plaisir de le voir briller par son jeu, enfin... Waouh, il m'a mis une énorme baffe. Même le reste, hein, Natoé, j'ai jamais été fan du tout, mais là je trouve que elle est excellente. Pattinson, il ne surprend pas, par contre, hein, ça c'est sûr, mais il est parfait aussi. Tom Holland, idem. Enfin, j'ai vraiment aucun reproche à faire, à part, mais vous le savez, je ne suis pas objectif, donc je le précise à chaque fois. Zendaya, j'y arrive pas. Hein. J'y arriverai jamais, vraiment, ça tronche, enfin, je ne sais pas, ça ne passe pas du tout, du tout. D'ailleurs, c'est drôle parce que, non, c'est pas drôle, mais c'est étrange. En fait, c'est étrange, parce que, avant le film, on a eu une pub pour, je sais plus quel parfum, alors, voilà la mauvaise pub, moi qui ai été publicitaire pendant 20 piges. La pub, c'est à la gloire de Zendaya, donc des extraits d'interviews où elle parle de sa carrière, etc., et on voit des extraits de plein de ses rôles, bon. Et à la fin, on est censé apprendre pourquoi c'est la pub, j'ai oublié. Il y a un côté, l'ego qui explose, enfin, bon, bref. Mais là, on la voit pas non plus H24, hein, c'est un petit peu comme Elliot Page, voilà. Elliot Page, on la le voit très très peu, la performance est totalement oubliable. Sincèrement, il n'y aurait pas tous les dossiers, les machins, le phénomène, pour les raisons que vous savez, on n'en parlerait pas du tout, même sincèrement. Alors donc, l'acting impressionnant. Ce qui me plaît aussi énormément dans cette version-là. L'Odyssée, c'est, ça rappelle les péplums. Enfin, moi-même, j'adorais ça quand j'étais gosse. Autant les westerns, la dernière séance, tout ça, des fois, j'avais du mal. Enfin, après, j'ai appris à aimer. Mais quand on avait des trucs, le septième voyage de Sinbad ou je sais plus quoi, enfin, Jason et les Argonautes, enfin... Alors, plus récemment, pour moi, qui suis très vieux, Le Choc des Titans, qui est un film cultissime que j'adore, même s'il a très mal vieilli au niveau des effets spéciaux, pour moi, je trouve qu'il y a un charme inouï. Évidemment, je passe outre le remake immonde qui a été fait je sais même plus quand. Quand tu penses à l'histoire d'Ulysse, à la légende, tout ça, tu penses pas à Nolan. Mais moi, du coup, je trouve ça intéressant. Et effectivement, je n'ai pas été déçu. Ce que je peux dire, je vais quand même pas... t'as dit que tu ferais pas Milan, si tu veux. Et c'est que... Ce que j'ai préféré, c'est pas les scènes spectaculaires, les scènes de fantasy, enfin tout ça. Le cyclope, j'ai bien aimé, mais ça m'a pas cloué à mon siège, voilà, c'est ça que je veux dire en fait. Alors que ça aurait pu, enfin fait par un autre grand réal qui adore ce genre de séquences, ouais, je pense que ça aurait été un hallucinant quoi. Idem pour à peu près toutes les créatures ou les c'est très très bon hein. Je dis pas que que ça ne m'a pas plu. Je dis que c'est traité d'une à la Nolan. Vraiment. Il n'y a pas de surprise, les gens qui se disent déçus, je suis un peu étonné parce que qu'est-ce que vous espériez de ce réal ? Moi, là où j'ai vraiment été cueilli, c'est sur tout l'aspect psychologique de l'intrigue. Voilà, cette perte d'éthique et d'idéaux et de foi même, complètement asphyxiante qui assaille Ulysse et déroute ses compagnons. Il y a quelque chose de à la fois mélancolique et désespéré dans ce film qui m'a énormément touché. Il y a aussi un regard sur la perte de repères et le combat qui peut sembler vain parfois pour redevenir la meilleure version de soi-même. Tout ce qui est un peu psychologique, quoi, j'ai trouvé que c'était parfait. Il y a des petits trucs où j'ai à redire, quoi, mais une fois de plus, j'attendais pas quelque chose d'autre en réalité. C'est-à-dire que je pensais que ça allait être à peu près ce que j'ai vu. Donc moi, je peux comprendre que des gens aient été laissés sur le carreau. Visiblement, quand même, c'est un très faible pourcentage. Globalement, le film récolte des éloges. J'ai vu qu'il est en train de cartonner de dingue. C'est, pour moi, mérité. Après... si on est grand amateur de ce récit, de l'Odyssée d'Homère, comment dire, faut bien être conscient qu'on va pas avoir là l'adaptation cinématographique ultime qui fera référence ultra fidèle au texte et extrêmement spectaculaire comme peut l'être le récit à sa lecture. Non, c'est la version clairement quand même assez personnelle de Nolan. Et pour moi, c'est réussi, quoi. Enfin, tout simplement. Enfin, en tout cas, je vous le recommande. Alors, évidemment, je vous le recommande complètement. Alors, le débat IMAX, pas IMAX, comme je vous le dis, moi, je l'ai vu dans une vraie fausse salle IMAX, donc néanmoins, la qualité du son, l'image, enfin, c'était impressionnant. Même la salle en elle-même, elle était tout de ouf, quoi. C'est quand même bien de le voir sur grand écran à minima. Là, je vais dire, je sais que les salles IMAX, d'abord, c'est ultra rush. Et ensuite, il n'y en a pas partout. Mais... découvrir le film sur très grand écran, en salle de ciné, c'est vraiment mieux, quoi. Voilà. J'enchaîne avec Les Rayons et les Ombres, que j'avais voulu d'ailleurs aller voir au cinéma. Et j'ai pas pu, donc là j'ai fait ma séance de rattrapage, réalisée par Xavier Giannoli, qui en doit la série remarquable d'Argent et de Sang, dont je vous avais parlé avec émotion à l'époque de sa diffusion en deux parties, il me semble. Et bien là, j'étais très 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 curieux, étant donné le sujet du film, et d'ailleurs j'enchaîne immédiatement en vous faisant le pitch. Jean et Otto, un homme de presse français et un jeune francophile allemand, se battent pour la paix en Europe. Enfin, on ne donne pas la date là, donc là, c'est tout début des années 30. Hein. La fille de Jean, Corinne, démarre une brillante carrière d'actrice de cinéma. Malheureusement, la guerre éclate et la France se retrouve occupée. Les deux amis ont un rôle majeur dans cette nouvelle France. Répétition du mot France, c'est pas très très joli. Jean trouve la stature d'un grand patron de presse, ardent promoteur de la collaboration avec l'occupant, tandis qu'Otto devient l'ambassadeur du Reich à Paris. 3 heures, même un peu plus, je crois. Hein. Et je n'ai pas vu le temps passer. J'ai été bouleversé, un peu sidéré. Je connaissais pas cette histoire. Pourtant, j'en connais beaucoup des histoires voilà, sur la Seconde Guerre mondiale, même en France, etc. Mais ça, waouh ! Alors que c'est une histoire majeure, clairement. Le ton est remarquable. Jean Dujardin, époustouflant. Enfin, moi, j'aime énormément cet acteur, même si... récemment, il m'a un peu déçu avec certains trucs, hein, l'homme qui rétrécit notamment, mais bon, c'est pas de sa faute. Bref, et c'est un rôle très difficile, hein, très très difficile. Et Idem pour le Real. Alors, je suis pas étonné. J'avais adoré la Real d'argent et de sang, mais c'est somptueux et c'est juste ce qu'il faut. Quand on traite de la France sous occupation, c'est quand même beaucoup d'images clichés qui nous reviennent. Là, il pose un, comment dire, un regard qui est tellement vrai, enfin, vraiment l'impression d'y être, quoi, mais sincèrement. Voilà. Et puis, les 3 heures, il fallait bien ça. Hein. Il fallait bien ça pour nous immerger, en fait, dans le glissement hein, idéologique. Enfin, idéologique. C'est un film sur l'opportunisme. Hein. Vous l'avez tous compris. C'est pas un film sur les convictions. Mais ni chez le personnage interprété par Jean Dujardin, ni chez Otto, d'ailleurs. Même si, à la fin, et on peut le comprendre, ça a été le cas de beaucoup de membres du Troisième Reich, notamment ceux qui avaient des postes importants mais qui au début n'avaient pas les obsessions d'un Göring, d'un Himmler et encore moins d'un Hitler. Mais bon, voilà, suivaient le mouvement. Au bout d'un moment, pris dans l'euphorie des victoires et surtout le martèlement des discours idéologiques, etc., ils ont fini eux-mêmes obsédés par toutes ces thématiques et convaincu d'œuvrer pour le bien et même plus que ça, enfin d'améliorer la face du monde, voilà. Donc ça c'est très 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 bien montré. Le seul bémol que j'ai, et je pense que je vais un peu me retrouver isolé avec cette critique, j'ai trouvé que c'était un peu trop long les séquences sur la fille, même si c'est impératif puisque c'est presque l'héroïne du film, enfin quelque part, autant que son père. Mais alors l'actrice est remarquable, mais j'ai trouvé qu'il y avait des moments où c'était un peu long tout son séjour quand elle est, j'allais dire internée, non hospitalisée, enfin pour les soins tout ça. Je trouve qu'il y a des petites longueurs, mais ça va. Enfin et puis c'est toujours il y a toujours des coupures, ça passe. Globalement, immense claque, immense coup de cœur. Je vais enchaîner, oh là 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 là, je vais enchaîner avec Disclosure Day, les amis. Alors là, je suis tellement triste. Donc le dernier film de Steven Spielberg que je voulais aller voir au cinéma, c'était totalement prévu et j'ai totalement annulé parce que bah, autour de moi, tous les potes ont dit que c'était un spectacle navrant. Et surtout, ce que j'ai perçu chez eux, dans leur retour, c'est pas de la colère, c'est qu'est-ce qui lui arrive? Comment est-ce possible?
Ouais, il me disait, ouais, t'es un peu exagéré peut-être, bon.
Mais ça avait quand même suffi à me faire annuler ma séance. Ah oui, complètement. Je ne suis pourtant pas vraiment influençable, mais là, j'entendais les arguments et je pressentais que ça allait me faire pareil. C'est ça le truc en fait. Le pitch, un fugitif détenteur d'un secret d'état capital et d'une présentatrice météo devenue télépathe, sans qu'elle puisse se l'expliquer, hein, je précise, s'allie pour échapper à ceux qui dissimulent la présence sur Terre des aliens. Ouais, enfin un groupe secret qui donc cherche à dissimuler tout élément tendant à prouver que les aliens existent. Donc voilà, c'est avec Emily Blunt et Josh O'Connor, deux acteurs que j'aime beaucoup, enfin surtout Josh O'Connor, hein, lui je l'adore. Et je le dis d'entrée de jeu, c'est le premier film avec Josh O'Connor où je trouve Josh O'Connor très mauvais. Très mauvais, très mauvais. Et pourquoi est-il très mauvais? Est-ce que tout d'un coup, il ne sait plus jouer? Non, je pense pas. Je crois qu'il est mal dirigé. Mais de quel droit tu te permets d'attaquer tonton Steven? Je crois qu'il est très mal dirigé et j'ai presque envie de faire le même reproche à la prestation d'Emily Blunt où ça démarrait pas trop mal et au bout d'une heure de film, sachant qu'il dure 2h10 je crois, enfin même plus, je sais plus, 2h30, j'ai oublié. Ben il y a un moment où moi elle a commencé à m'insupporter et c'est pas la faute de l'actrice je veux dire. Le truc qui m'a le plus catastrophé, mais vraiment, alors dire que j'exagère mais non, c'est le scénario. L'histoire est nullissime, c'est d'une médiocrité abyssale. On est au niveau d'un filler de X-Files. Sincèrement, c'est chiant. T'en as rien à battre. C'est ultra mal monté dans la narration, je veux dire. J'ai regardé, en fait, je me suis dit, mais quel est le stagiaire tâcheron qui a chié ce scénar? Je regarde sur Wikipédia, attendez. Scénario du romancier David Cup, 6e scénariste le plus populaire de tous les temps en matière de recettes au box-office aux États-Unis. Donc, en fait, c'est comme des fois, vous savez, il y a des œuvres qui se font et, comment dire, tout se connecte, le miracle a lieu, tout ce qui peut réussir, réussit. Et là, c'est tout l'inverse, c'est-à-dire que c'est que des gens de talent, hein, aussi bien à la réal avec Spielberg qu'au scénar avec Cup, qu'au casting, et rien ne va. La première scène, en fait, qui est donc une scène d'action avec une grosse tension, un mec, oh, il faut s'échapper, etc. Je regarde ça, ça dure 10 minutes, c'est ultra long, Et t'en as rien à branler, puisque forcément, tu ne connais pas les intervenants encore. J'attends qu'on m'explique qui est qui, avec Marie-Ange Nardi, bien sûr. Il la rend sa chaleur. Qui est qui et pourquoi, enfin bon, je trouve que c'est un très 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 mauvais démarrage de film. Je t'explique rien, je te mets une scène de tension qui t'aurait éventuellement ému ou coupé le souffle si t'avais eu 1h30 d'explication avant, quoi, en fait, sur tous les enjeux, la traque, tout ça. Globalement, parce que je vais pas non plus faire 4 heures là-dessus. Bon, alors, pour moi, c'est le pire film de Spielberg, mais de très loin, juste derrière Le Bon Gros Géant. Et encore, je préfère revoir Le Bon Gros Géant que j'ai détesté, hein, plutôt que Disclosure Day. Parce que Disclosure Day, c'est une insulte, j'ai trouvé, hein, à l'intelligence. C'était gnangnan, mais gnangnan. Là, si t'as plus... Enfin, non, je peux pas juger, parce que il y en a sûrement parmi vous qui ont adoré et qui vont me dire « Bah Alex, chacun ses sensibilités, moi j'ai énormément aimé le film, je trouve que c'est un des meilleurs de Spielberg, enfin j'en sais rien, tu vois. » Et c'est totalement respectable, enfin, évidemment. Je ne donne que mon avis, qui ne vaut rien, et c'est pour ça qu'il vous est gracieusement offert. Néanmoins, pour ma pomme, j'ai trouvé que... ce film te prend pour un con, quoi. Mais vraiment, mais même au niveau de l'intrigue, enfin, tout est ridicule. Mais même le truc de téléportation, c'est ringard. Mais le méchant, mais c'est le méchant le plus chiant que j'ai vu de ma vie. Ça rappelle vraiment de très 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 mauvais méchants, de très 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 mauvais épisodes d'X-Files. Je sors pas ça de mon chapeau pour rien. Et alors, on a, ouais, un discours, mais à vomir, hein, sincèrement, de niaiserie, hein, je veux dire, un discours bisounoursland, avec des répliques qui se veulent philosophiques, ou pas. Enfin, les échanges sur la religion, oh putain, ouille, ça pique, hein. Tu regardes ça, tu dis, ah ouais, en fait, quant à la foi, t'es teubé, alors qu'évidemment que non. Mais dans le film, oui, clairement, c'est horrible, une merde sans nom, et surtout les gens avaient quand même dit, bon, la dernière partie du film quand même, les 10-15 dernières minutes, ça envoie du lourd, oh bah putain, alors donc moi j'attendais ça un peu comme le radeau quoi de survie, et en réalité je me suis dit, oh le film commence, après une intro de 90% du film, l'intrigue s'élance, ça démarre, et en fait ça démarre évidemment. Pas du tout, puisque ça dure 5 minutes. Et alors, le dernier plan du film, là, j'avoue que sincèrement, avec ma chérie, on a explosé de rire parce que c'était vraiment la cerise sur le gâteau. Genre, ça fait 1 heure que je te pisse à la gueule et là, je vais faire un petit caca. Ça se termine comme le dernier épisode d'une saison de série de merde. Attention, spoil pas trop, mais bon... Enfin, c'est un peu du spoil quand même, hein, mais bon, le film est sorti il y a 1000 ans, ça va, c'est bon. Écoutez, c'est un ridicule écran noir. Aïe, elle est au chiotte. Hein, c'est vraiment, hein, j'ai détesté ce film. En fait, il y a le film de Spielberg, bon, ça me parle beaucoup moins que d'autres et tout. Sachant que je lui dois une partie vraiment conséquente, hein, de mes plus belles émotions de cinéma ever. Donc pour moi, c'est un boss, c'est mon papa bis. Enfin, il m'a trop fait rêver, il a trop fait de chef-d'œuvre. Hein, les Dents de la Mer, E.T., Indiana Jones. Mais même, moi j'ai beaucoup aimé Fablemans. Enfin, il y a les films que j'adore de Spielberg, il y en a trop, en fait, tout simplement. Mais là, faut savoir dire quand, non, ça ne va pas. Enfin, les incohérences, les amis, les incohérences toutes les 10 minutes. Et quand je dis incohérence, c'est incohérence facile. Scénaristique, t'appelles ça comme tu veux, mais c'est inacceptable. Ce serait pas un film de Spielberg, mais les gens l'auraient défoncé, mais à juste titre. Mais même à la réal, il y a un moment, la but de séquence où la caméra tourne à toute vitesse autour d'un personnage pendant qu'il parle ou je sais pas quoi, moi il y a un moment j'étais à deux doigts de gerber, j'avais juste la nausée, je veux dire, arrête de faire tourner ta caméra autour de tes personnages, quoi. C'est insupportable. D'abord, c'est moche, c'est nul à chier. Enfin, ça se fait plus depuis 20 ans. Il recommence toutes les 10 minutes. Insupportable. Putain. Et puis, des plans très moches. Très, très moches. Très laids. Vraiment, des mouvements de caméra complètement nuls. Mais qui suis-je pour? Mais je suis un spectateur. Je t'emmerde. Comme disait le philosophe Paul Stanley, accessoirement chanteur de Kiss, nul besoin d'un diplôme pour exprimer une opinion. C'est un des trucs les plus vrais que j'ai jamais entendu de ma vie. Donc, ça va, par contre, ça va à l'encontre de beaucoup de youtubeurs cinéphiles à sa remontée, bien évidemment, qui estiment que si tu n'as pas, bon bref. Bon, bah, moi je vous le déconseille, mais totalement. C'est juste raté, mais c'est raté sur des niveaux que je ne soupçonnais pas. Je pensais que... le film était mal monté, que ça se traînait, que c'était pas génial non plus, etc. Mais j'ai pas compris que le scénario... Enfin, c'est un scénario débilitant, ringard, cliché de ouf, totalement daté. Enfin, il a pas compris ce que c'est que les médias en 2026. Et là, tu te poses des questions. Enfin, c'est triste de vieillir, quoi, quand t'es largué, quoi. Mais la séquence de révélation, de disclosure moment... non. Enfin, si ça avait lieu comme ça aujourd'hui, bah moi par exemple je serais pas au courant, tu vois. Parce que moi j'ai plus la télé depuis 15 ans. et je regarde plus la télé du tout. Donc moi, si t'es en mode, il faut que les grandes chaînes de télé, je suis pas au courant. Et quand bien même je serai au courant, tant qu'il se passe pas un truc, même la réaction des gens, t'y crois pas du tout, mais les séquences, t'as tous les gens dans le métro qui sont là en train de pleurer. Oh mon Dieu. Mais personne ferait ça aujourd'hui. Les gens, ils regarderaient, feraient, non, c'est de l'IA. C'est fake, on vous manipule, c'est Trump. Mais voilà, il se passerait rien de rien. Mais rien. Genre, ce serait un non-événement total. Ça fait bizarre de le dire. Et on le voit d'ailleurs un petit peu, même récemment, là, avec certaines vidéos qui sont révélées, par le gouvernement américain. Il y en a quelques-unes. Bon, on n'est pas dans un degré de choc visuel comme ce que fait Spielberg dans son film. Mais bon, il y en a quelques-unes, c'est quand même assez chelou, quoi. Après, moi j'adore, hein, c'est un sujet que je trouve fascinant, mais ça m'inquiète pas, j'avoue, par contre, ça ne m'obsède pas. Je regarde les images et je suis content, je trouve ça cool, quoi. Mais là, vraiment, les gens s'en battent les couilles, quoi. Les gens s'en battent les couilles, et je pense que si on te disait, on va te révéler 2 heures d'images hallucinantes qui sont véridiques, tant que ça n'a pas d'influence sur ton quotidien, tout le monde s'en bat les couilles. Ça, c'est ça la vérité. Et là, il a rien compris, enfin, il est complètement largué. Le seul truc, et moi je pensais que ce serait ça la fin du film. Je pensais que. Et ça aurait été, de mon point de vue, beaucoup mieux. Disclosure Day allait être un non-événement, comme ça le serait en réalité dans la vraie vie, mais que suite à cette non-réaction, on pourrait dire, sachant que l'homme court à sa perte, que tout le monde a toujours cru que ce serait, enfin que si on avait tout d'un coup la preuve, machin, il se passerait quelque, il y aurait un sursaut, enfin bon bref, que le film s'achèverait en fait sur Independence Day là par contre. Pas Disclosure Day, Independence Day, c'est-à-dire l'arrivée indiscutable d'extraterrestres. J'étais mais convaincu, hein, en plus comme je m'étais pas vraiment fait spoiler, j'étais convaincu que le film se terminait sur, en gros, vous ne réagissez pas aux vidéos, du coup, le contact a lieu pour vous provoquer. Ça aurait eu un sens. Moi, je trouvais ça vraiment cool. Quand les gens disaient, à la toute fin, il y a des scènes de ouf, alors, du Spielberg pur jus, je me suis dit, il y a des vaisseaux qui surgissent des nuages. Enfin, un peu comme on voit sur certaines images, du coup, qu'on te montre, qui ont été cachées, etc. Mais que ça allait avoir lieu, voilà, sur toute la planète, enfin, des séquences qu'on a déjà vues un milliard de fois, qu'on connaît bien. D'ailleurs, ça me rappelle son adaptation de La Guerre des Mondes, même si je préfère l'original, qui est très kitsch, mais parce que pour moi, l'original, il est imbattable, c'est magnifique, etc. J'adore le film de Spielberg avec Tom Cruise, que j'ai vu, je sais même pas combien de fois. Bref. Et non, on n'a pas ça du tout. En fait, c'est censément, ça suffit. On va te montrer des vidéos et tu vas prendre conscience de... Mais tellement pas. Tellement pas. Parce que je vous parle de toutes les scènes qui ne vont pas, les scènes où les personnages sont supposés être cachés des méchants alors qu'ils sont à réellement 1m50 derrière un petit rocher et qu'ils galopent en faisant du bruit et que le mec il est là, il fait là. Où sont-ils? On ne sait pas. À quelle heure Spielberg il regarde ça et fait... C'est bon, c'est dans la boîte, nickel. À quelle heure une bagnole accrochée à un train qui va à 200 à l'heure, le pare-choc est tellement solide qu'elle reste parallèle comme ça. Oh, je fais trop bien le bruit de la voiture qui fait sur le côté des rails avec les roues. Cette scène de cascade en mode mission impossible pour les cons, c'est ridicule. J'avais entendu dire la scène du train imbattable. Là, vraiment, waouh. Mais non, mais moi, mais waouh, de quoi, en fait? Waouh, de, c'est pas possible, en fait. C'est ça, la scène de science-fiction du film. C'est la scène du train avec la bagnole qui n'est pas aspirée, n'explose pas, en fait, ne rebondit pas vraiment et s'envole pas dans les airs. Putain. Bordel, ça m'a vraiment mis le moral dans les chaussettes. Dans les chaussettes, hein, faire l'expression de vieux. Je poursuis avec une autre déception. Mais bon, là, je m'attendais un petit peu plus, même si des gens m'avaient dit, Alex, tu vas voir, t'emballe pas trop sur Obsession, parce que ou Backrooms, mais bon, Backrooms, moi j'ai pas trop kiffé, hein, je vous l'ai dit. Parce qu'il y a un truc ouf qui se ramène, c'est Passenger. Et j'avais vu l'affiche qui était magnifique, et j'avais envie d'y croire. Et là aussi, je suis déçu par des gens que j'ai appréciés et défendus. André Overall, réalisateur de Trollhunter, putain. Je l'ai en DVD d'ailleurs, j'adore. Bon, par contre, également le réalisateur du dernier voyage du Déméter, c'était horriblement nul. Et là, bah, là, on est beaucoup plus du côté de ce film-là que du Trollhunter. Après avoir été témoin d'un terrible accident de la route, un jeune couple réalise qu'il n'a pas quitté les lieux du drame sans être suivi. Une présence démoniaque, le passager, se joint à leur voyage en van et transforme leur aventure en un véritable cauchemar, déterminé à ne s'arrêter qu'une fois qu'elle les aura tous les deux emportés avec elle. Oh bordel, le nanar de merde, un sous Jeepers Creepers, mais comment des gens ont pu apprécier ça? C'est vraiment, là, t'as l'impression d'un téléfilm du dimanche soir. Non, c'était quand les téléfilms pourris horrifiques sur M6? Jeudi soir? Je sais plus. C'est très très pas bon, hein, je vous préviens. C'est ultra cliché. J'attendais un truc un peu angoissant, un peu, et qui soit pas cliché. Les jumpscares, alors là, c'est le film de la fainéantise. Tout ce que j'exècre. Pour te faire peur, le réal, jumpscare. Jumpscare. Au bout d'un moment, pour un peu varier quand même, et puis voilà, il est quand même conscient de ce qu'il fait. On va passer de 4-5 jumpscares voilà, en une demi-heure à des jumpscares. Putain. Et après, bah, plutôt des jumpscares. Plutôt pour te faire peur, en fait. Parce que effectivement, si tu coupes le son, puisque le jumpscare, bon, je rappelle, hein, enfin, c'est sonore, bah, l'image. C'est très très rare que ça fasse suffisamment peur, hein, pour te faire, enfin, que ça fasse suffisamment peur. Oui, que ce que tu visualises soit suffisamment terrifiant pour te traumatiser. C'est quand même vraiment l'association des deux. Et là, le passager, il est ridicule. Visuellement, je veux dire. C'est le mec a peur de ça. Il a 9 ans. Je vois, 9 ans et demi. Allez, je vais être généreux. Donc bref, c'est ridicule. Ah, voilà, je sais à quoi ça m'a fait penser. Putain, vous vous souvenez de chair de poule, les trucs de R.L. Stein, là, je sais pas quoi, là. Bah, c'est ça. C'est niveau chair de poule, ce film. Totalement. Avec des séquences vraiment comiques. Il y a un moment où il rencontre des gitans, enfin, en gros, de certaine façon, qui connaissent la légende de ce passager. Ouais, t'as cette vieille dame qui parle à l'héroïne et qui lui dit « Oui, il a un nom. » C'est le vagabond démoniaque. Le vagabond démoniaque. Oh putain. Donc après, à chaque fois qu'il apparaissait, je disais à ma chérie « Oh non, le vagabond démoniaque. Oh non, oh non !» C'est vraiment... comment dire, je sais plus c'est quel studio, quoi. Je comprends même pas que quelqu'un ait validé le... Alors oui, après c'est le réal, parce que le réal, il a quand même fait Troll Hunter. Génial. Le dernier voyage du Démetteur, pour moi, c'était de ce niveau-là, hein, totalement. C'était ridicule, nul à chier. Bon, bref. Enfin, en tout cas, ne perdez pas votre temps. Hein. Oh putain, et pour conclure, La Dérive, Cauchemar en mer sur Netflix, un documentaire. Ça fait longtemps que je vous ai pas parlé de documentaire Netflix, et pourtant je les regarde tous, hein, je vous confirme, mais des fois, bon, j'en parle pas, parce que je ne suis pas rigoureux. C'est ça, c'est la désolence. À travers les images inédites et des témoignages de survivants, ce documentaire immersif raconte le naufrage d'un navire de croisière de luxe en 2012 et la catastrophe qui a suivi. C'est... incroyable. Si vous n'avez pas vu ce documentaire sur Netflix, vous devez absolument le regarder. C'est très bien fait. Je me souvenais très mal de cet événement, ce drame. On le revit totalement à travers les images d'archives, à travers les témoignages qui sont remarquables. Enfin, vraiment, ça, immense reco, mais immense reco. J'avais noté également que j'avais terminé la première saison de Dutton Ranch, et bon, bah, c'est pas bon. Et à part l'amour immense que je porte aux deux acteurs, c'est très mauvais. Et d'ailleurs, ça se termine comme... Je vous en parlais il y a pas longtemps, que un des trucs que j'adore chez Taylor Sheridan, c'est qu'il ferme ses saisons systématiquement. Il y a à chaque fin de saison une vraie fin. Ça pourrait totalement s'arrêter là. Et là, c'est tout l'inverse. Là, on est en merde, comment on appelle ça, cliffhanger de merde, mais ridicule, en mode tintintin, que va-t-il se passer? Suite dans la prochaine saison, va falloir se ressaisir. Je vais enchaîner avant de passer aux questions reçues par les achats récents. J'ai reçu une des bandes dessinées qui a le plus marqué mon enfance, que j'avais perdue à l'adolescence et que je ne retrouvais pas depuis parce qu'elle n'était pas rééditée et que les gens qui la revendaient, c'était non seulement hors de prix, mais dans des états avec des pages arrachées, enfin laisse tomber. Et là, enfin, elle ressort. J'avais vu qu'elle était ressortie aux États-Unis il y a quelques semaines et je me disais... Bon, je vais essayer de me la prendre, et puis voilà, j'ai oublié, et puis tout d'un coup j'ai vu que ça sortait en France, donc beaucoup moins cher, et là je l'ai enfin reçu, putain de merde, ça s'appelait à mon époque le combat du siècle, là ils l'ont rebaptisé la bataille du siècle, pourquoi j'en ai pas la moindre idée, Superman contre Spider-Man, là ils ont remis Amazing Spider-Man, je ne sais pas non plus pourquoi ils ont changé ça, ce n'est pas grave, par contre ça n'a pas, l'intérieur... Alors déjà le format, hein, vous voyez, c'est immense, c'est encore plus grand. Enfin moi je l'avais, c'était un grand album que j'avais, mais c'est un album quand même de taille normale. Enfin là c'est gigantesque. C'est, même la la cou les couleurs, enfin, oh là 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 là, et le dos, alors ça c'est mythique, enfin pour moi c'est mythique, parce que j'étais donc tout petit, et cette image-là m'obsédait complètement, me fascinait totalement, je suis tellement heureux, j'ai pas encore eu le temps, enfin j'ai pas pris le temps, bien sûr que t'as eu le temps, je n'ai pas pris le temps de la relire, mais ça ne serait tardé. Autre achat récent extrêmement émouvant pour moi, lié à mon enfance d'ailleurs également, enfin un petit peu plus tard du coup, un des tout premiers magazines sur Michael Jackson que j'ai acheté dans ma vie, et il s'agissait d'un poster géant. Le magazine s'appelait Grandeur Nature, et il comprenait donc une affiche gigantesque avec cette photo-là, de Michael, et au dos, un quiz en fait avec plein de questions. C'était réellement très très grand. Je pense que je vais vous faire voilà, vous voyez à l'intérieur, je vais vous faire une photo de l'affiche développée que j'avais mis au mur, donc bien évidemment pendant des années, puis elle s'est déchirée, puis jetée, et puis voilà, et puis non mais regardez l'état, on dirait qu'il est sorti hier en kiosque, enfin j'hallucine. Un truc, 18 francs ça coûtait. Donc ça, je sais pas de quand ça date, mais 83 ou 4, pas plus, ça c'est certain. Voilà. Et en plus, je l'ai pour vraiment pas cher. 20 euros, je crois. Donc, j'ai halluciné. On reste chez Michael, j'ai reçu la réédition de Moonwalk, que j'ai relu du coup encore. Voilà. Que dire d'autre, je vous en ai déjà trop parlé, donc bon. Alors, je sais qu'il y en a certains qui sont un petit peu déçus, parce que ce n'est pas la réédition fidèle de la version de 88 que j'ai, et la version même de 2009 que je n'ai pas, mais qui était identique à celle de 88, c'est-à-dire que c'était une couverture rigide avec une chemise enfin, autour. Là c'est souple, voilà, donc ça a coûté beaucoup moins cher, enfin beaucoup moins cher oui à faire, mais ça reste de très bonne qualité, voilà, sincèrement, et on ne perd rien, c'est-à-dire il n'y a pas de photo en moins, il n'y a pas de, tout est exactement comme sur la version originale, c'est juste que c'est souple. Ça, d'autant que c'est pas cher. Voilà, il y a moins de 20 euros, donc ça leur a permis aussi de baisser le prix, parce que je crois que quand il avait ressorti en 2009, c'était 25 ou un peu plus, je ne sais plus. Bref, très très bonne nouvelle. Ah oui, et puis alors pour les quelques littéraires parmi vous, j'ai profité de mes week-ends justement où j'étais pas là pour lire. Et j'ai enfin lu cet ouvrage de Bruce Wagner dont on a énormément parlé dans le milieu littéraire, Amputation, et dont Bret Easton Ellis avait fait les louanges en disant, et vous voyez, c'est juste là, un des plus grands écrivains vivants, etc. Et au dos, t'avais les éloges de James Ellroy, enfin, bon, j'y allais, je connaissais pas le mec, hein, j'y allais les yeux fermés, mais un peu ouverts quand même pour pouvoir lire. Hilarant. Et ça m'est tombé des mains. J'ai rarement autant souffert à la lecture d'un livre. Je l'ai terminé. J'ai terminé les dernières 100 pages. Je les ai lues en diagonale. Et j'ai détesté. Il se passe rien. C'est pas si bien écrit que ça. Enfin, qui suis-je, hein, franchement. Mais donc, j'ai pas du tout compris ce qui a fasciné Bret Easton Ellis là-dedans. Pour moi, c'est du... Et en plus, c'est très Bret Easton Ellis, mais en nul. Enfin, vraiment... sans aucun talent, enfin, et ça raconte rien, enfin, oh là là, putain, j'étais colère, hein, ouais. Bon, et ce coup-ci, on va enchaîner avec les questions reçues. Voilà, vous pardonnerez ma brillance et tout, hein, parce que là, c'est l'horreur. As-tu écouté le nouvel album des Rolling Stones? Je le trouve remarquable. Non, j'ai pas écouté l'album des Rolling Stones. C'est vrai que d'ordinaire, je suis assez curieux, donc j'écoute quand même. J'en ai entendu deux ou trois, néanmoins. Qui sont sortis un peu en single, enfin single, c'est sur le net, tu vois, mais j'ai été frappé par Never Wanna Lose You avec notamment Robert Smith en featuring, qui est au chœur et au synthé, je crois bien, j'ai adoré cette chanson, waouh, je m'attendais pas du tout, pop rock, disco, funk, qui défonce, enfin, c'est des putains, la vache, impressionnant. Donc voilà, les deux autres que j'ai entendus, ça m'a beaucoup moins plu, mais bon, après c'est mes sensibilités, tout ça. Donc je vais l'écouter, mais c'est pas encore fait. Néanmoins, énorme coup de cœur sur Never Wanna Lose You. Si vous êtes curieux, allez écouter. Mettez le son bien bien fort. Vous êtes pas prêts. Cobra était bien plus esthétique avec une musique plutôt sympa que Citizen Vigilante. Bordel, ça fait tellement longtemps que. que j'ai fait ma dernière vidéo, que j'ai l'impression que ça remonte à 2 ans. Ah ouais, je me souviens, quand j'étais jeune, je vous avais parlé de Citizen Vigilante. Cobra, mais mec, mais je crois que j'en ai parlé en plus. Cobra, c'est un chef-d'œuvre. à côté de ce truc-là. Cobra, visuellement, c'est superbe. Enfin, moi, j'adore. Un milliard de scènes de Cobra où je peux te dire pourquoi je trouve que la réal ou la photo est magnifique. La BO, elle est dingue. J'avais acheté le 33 tours. Vinyle, à l'époque, on était en 85, 86, je crois. 86, je pense. Je l'ai, c'est un album que je connais par cœur. Enfin, Robert Tepper, tout ça. Enfin, oh là là, mais il y a que des chefs-d'œuvre, mec. Donc, voilà, Stallone, moi, je le trouve génial dedans. Mais, hop, c'est culte, en fait, pour moi, Cobra. Ce film, il est culte. J'ai fait une longue vidéo dessus. Donc, si vous voulez en savoir plus, allez la regarder. Le film est bourré de défauts. Il est nauséabond. Mais c'est pour ça qu'on l'adore. Enfin, moi, je l'adore. Je le défendrai toujours. Je suis très heureux de l'existence de ce film. Alors que, bon, l'autre, bref. Alors, ce nouvel album de Madonna. C'est pas pour moi, enfin, tout simplement. Je peux pas dire que c'est mauvais. C'est entouré de petits jeunes qui connaissent les sons à la mode et qui sont doués, hein, clairement. Donc, voilà, tu sens que c'est vraiment... Enfin, je dis ça sans disrespect, tu vois, je fais un peu mon Vandame. Je dis ça sans lui manquer de respect, mais c'est vraiment la sensation que c'est mamie qui a payé des ados pour c'est quoi qu'il faut faire maintenant, quoi, pour être dans le coup. Voilà, après, je dis ça, c'est très réducteur. Elle a collaboré, enfin, les morceaux, ils sont pas... comment dire, ils sont aussi d'elle, enfin, je veux dire, voilà. Après, moi, j'aime pas du tout, parce que je n'aime pas cette facette de Madonna. Là, je parle pas des arrangements, parce que donc, j'ai pas trop aimé les arrangements, les sonorités, moi, c'est un style que j'aime pas, de son, même les mélodies, j'ai pas trop kiffé. Et surtout, le parler, moi, ça me saoule. Je détestais déjà quand elle faisait ça dans Vogue, tout ça, enfin, à l'époque, quoi. Donc là, presque toutes les chansons, comme, ben, je peux pas dire qu'elle chante pas, elle chante énormément. Mais il y a beaucoup, beaucoup de morceaux où elle parle beaucoup, et ça me saoule. Maintenant, factuellement, c'est bon, en fait. C'est franchement, je l'écoutais quand même attentivement, et oui, c'est bon. C'est pas parce que t'aimes pas que c'est pas bon. Donc l'album est réussi, on peut pas... enfin. Je comprends son succès, par exemple. J'ai vu qu'il cartonne. Et ça fait plaisir. C'est cool. Donc, je suis très content qu'elle, parce que par contre, le précédent, c'était Madame X ou je sais plus quoi. Là, c'était nul. J'avais écouté. Non seulement j'aimais pas, mais c'était nul. Là, c'est pas nul du tout, quoi. Étant donné que tu as vu Rambo First Blood mille fois, j'imagine que tu as fini par apprécier le taf de Jerry Goldsmith, Bill Conti sur les Rocky, John Williams sur les Spielberg ou Sylvester sur Back to the Future de Zemeckis, etc. Donc, question, aimes-tu? Ah, oui, ouais, j'adore tout le travail de toutes ces personnes que tu cites, hein, absolument. Avec Jerry Goldsmith, pour moi, c'est vraiment, vraiment... C'est le boss des boss, pour moi, avec John Williams. Bill Conti, c'est un peu ce que tu cites, ouais, effectivement. Les écoutes-tu souvent? Et si oui, as-tu déjà fait une vidéo entièrement axée sur les compositeurs préférés de tes bandes originales ever? J'ai fait une vidéo tout à fait sur les bandes originales préférées, les plus marquantes, etc. Mais pas sur ma chaîne. J'avais été invité à faire un live chez quelqu'un. Je suis tellement désolé, j'ai oublié son nom, parce que c'est pas non plus un ami ni quelqu'un avec qui j'échange régulièrement. Mais il y avait une petite chaîne qui m'avait... proposé de les rejoindre. De mémoire, il y avait aussi mon pote Miko. On s'était bien marré, c'était génial. Je vais vous retrouver ça. Hein. Donc voilà, après, je parlais pas de toutes les BO que j'avais adorées. Je crois qu'il fallait qu'on en choisisse 2-3 chacun, un truc comme ça, expliquer pourquoi, comment. Mais alors, par contre, j'avais sélectionné celle du premier Rambo, tu vois, comme quoi, dans ce live. C'était vachement intéressant. Alors, est-ce que je les écoute souvent? Non, je n'écoute pas de bande originale de film chez moi. Ça peut arriver, mais c'est très très rare. J'écoute des chansons, vraiment. Ou alors, j'écoute des chansons ou de la musique électronique. Des trucs qui n'ont pas de texte, Gesaffelstein, Justice. Ça, c'est des trucs que j'écoute très souvent, ces artistes-là, par exemple. Mais où il n'y a pas forcément de texte. Mais sinon, non, j'écoute pas vraiment de BO de films. Hormis certains trucs de Philip Glass, ça oui, Philip Glass c'est un bel exception. As-tu vu le doc It's Never Over sur Jeff Buckley? Personnellement, j'ai trouvé ça très moyen, des manquements. On parle même pas de Gary Lucas, son admiration pour Bob Dylan par exemple, pas beaucoup axé sur la musique non plus. On n'apprend pas grand chose. Totalement d'accord. Je l'ai même pas sélectionné pour faire le retour parce que j'ai pas compris en fait la médiocrité de ce travail, en plus un peu pleurnichard. Enfin, c'est indigne en fait du génie de Jeff Buckley et de son intelligence, de sa complexité, du raffinement du bonhomme en fait. C'est très vulgaire. C'est dommage, vraiment. Très bon exemple d'un ratage, je trouve. C'est quelle édition de l'album Bad derrière toi? Je ne reconnais pas l'autocollant. Oui, tu reconnais pas parce que c'est pas l'album Bad. C'est le puzzle, le puzzle, qui était sorti, comment dire, à l'époque de la sortie de l'album Bad. Et voilà, j'en avais parlé à l'époque où je l'ai reçu, enfin, mais on l'achetait dans les disquaires. Voilà, et celui-là, il est neuf sous cellophane, enfin, c'est incroyable. J'en rêvais à l'époque, je l'ai récupéré, je suis trop content. Mais c'est pas un album, c'est un puzzle. Est-ce que tu as déjà vu le film britannique de 2011, Kill List, de Ben Whitley? Ben, j'en ai parlé, voilà, du réal de Normal. Je me demande si j'en ai, du coup, j'en ai pas parlé dans le JDV où je vous fais mon retour sur son dernier film, donc Normal, que Bob Odenkirk, que j'avais beaucoup aimé. Parmi toutes les biographies, pardon, et autobiographies que tu as lues sur différents artistes, quelles sont celles que tu as préférées? Si toi-même tu avais pu écrire un livre sur quelqu'un, pas forcément une biographie, sur qui aurais-tu aimé écrire? Excepté Michael Jackson. J'aurais aimé écrire sur Lesnar. Voilà, mais ça aurait été très dur parce que il y a peu de documents, de choses comme ça. Après, sinon, je sais pas trop. Non, franchement, je sais pas. J'ai vraiment pas d'idée. Après, les biographies. Ah oui, biographie et autobiographie. Alors, autobiographie, ma préférée, ce sont les Mémoires de Lesnar, qui voilà, c'est donc factuellement une autobiographie. Ensuite, biographie. J'en parle régulièrement, ce sont celles sur Lovecraft et Edgar Allan Poe. Voilà, je vais aller chercher. Celle sur Lovecraft, pour moi, c'est de très loin la meilleure, c'est celle-ci. La plus complète, celle qui est référence, sachant que les bouquins sur la vie de Lovecraft, j'ai dû en lire une bonne dizaine. Et idem pour Edgar Allan Poe, ça pour moi c'est le truc ultime. Voilà, c'est un pavé hein, par contre. Et ensuite, les autobiographies, j'adore ça, j'en ai lu tellement, mes préférés. Là, tout ça c'est des autobiographies finalement, alors de musiciens là, en l'occurrence. J'aurais beaucoup de mal à en sélectionner quelques-unes, mais voilà, je sais pas, il y en a trop, il y en a vraiment, il y en a trop. J'imagine que tu as vu les vidéos de la nouvelle tournée de Motley Crue, Vince Neil n'a jamais été aussi mauvais, j'aimerais ton avis. Le gars, j'ai appris, enfin comme tout le monde, hein, j'ai appris récemment dans une interview qu'il avait eu 4 AVC. C'est non-assistance à personne en danger, en fait. Moi, j'ai vu les images de la tournée actuelle où, dès qu'il ouvre la bouche, il a l'air de suffoquer. On a l'impression qu'il va faire un malaise, mais réellement, quoi. Et surtout, il a le regard hagard, perdu. Il a l'air triste. Enfin, ça m'a brisé le cœur, parce qu'en fait, ça fait des années qu'on regarde les vidéos de Motley Crue live et qu'on se fout de la gueule de Vince Neil. Et en effet, il y a de quoi. Enfin, il est ridicule. Il n'arrive plus du tout à chanter. Enfin, c'est même pas que je chante faux, c'est que... c'est une catastrophe, hein, il a bout de souffle comme je dis tout le temps, mais là c'est encore pire, c'est même pire que Don Dokken, enfin ceux qui voient de quoi je parle, bref, donc là c'est dur, c'est vraiment dur et c'est plus drôle, faut qu'il s'arrête, mais vraiment. Après j'ai vu que il y avait eu des dates où ça allait mieux et le pauvre il est tellement à la ramasse qu'il n'arrive pas à être synchro avec son micro, du coup on entend que c'est du playback quoi. Voilà, on passe les bandes derrière. Oh putain, il chante vachement mieux. C'est presque comme sur le disque. C'est horrible. Après tout le monde, je comprends que c'est dur de s'arrêter, de jeter l'éponge et de dire voilà, la fête est finie. Tout le monde n'a pas cette force-là. Enfin, David Coverdale l'a fait, chanteur de Whitesnake. Il l'a fait il y a quelques années, il y a 2-3 ans. Il a arrêté et il s'est arrêté à temps. Il l'a dit, hein, je sens que ça devient vraiment moyen. Et en effet, ça devenait moyen. Maintenant, c'était tout à fait acceptable, hein, comparé... d'autres, donc on peut estimer qu'il s'est arrêté à temps, mais c'est difficile, et ils sont très rares à réussir à le faire, quoi. Est-ce que tu as eu le courage de continuer Cape Fear? Les épisodes 5 et 6 prennent un virage, mais on est toujours dans le rab pour les gosses et le what the fuck pour les parents. Heureusement que Ravier fait le job. J'ai essayé de tomber, malheureusement, voilà. Pour moi, c'est vraiment un énorme échec, encore un truc... qui est pas du tout un smart move, issu de Tonton Spielberg. Pourrais-tu montrer tes CD de Michael Jackson, à moins que tu l'aies déjà fait? Non, je l'ai jamais fait. Mais ça, je le ferai dans une vidéo ou un bonus de JDV, où je vous montrerai tous mes CD pop-rock, puisque vous me le demandez très régulièrement. Donc ça, je vais le faire. Et du coup, j'inclurai ceux de Prince et de Michael. Juste un mot pour te remercier. Grâce à toi et à ta reco, j'ai découvert le film Dérapage incontrôlé et j'ai adoré. Ah putain, tu me fais trop plaisir. J'aime tellement ce film. Alors c'est marrant parce que tu dois être comment dire, ou t'es un nouvel abonné. J'en ai régulièrement des nouveaux abonnés qui me disent je me fais toutes tes vidéos. Il y en a plus de 300. Et du coup je le vois à travers les commentaires qu'ils me laissent sous chaque vidéo ou presque, que effectivement ils sont en train de regarder toutes mes vidéos. ça me bouleverse, vraiment, la vérité, ça me bouleverse, en fait. Parce que, waouh, c'est, je sais pas, c'est hyper touchant, je trouve. Oh là là, mais quel petit cœur tout mignon, lui, hein. Enfin, en tout cas, donc, bref, ouais, ça devait être, peut-être dû voir ça dans mes recos de films d'il y a 3 ans. Dérapage incontrôlé, immense film pour moi. Kix, est-ce que tu as aimé? Bien sûr, alors, j'avais l'album, enfin, j'ai toujours, enfin, j'ai 2 albums de Kix, que je vous montre d'ailleurs, forcément, dans ma vidéo, le Heavy Metal et moi. Celui, où il y a Don't Close Your Eyes, enfin il y a Blow My Fuse et l'album putain juste après, j'ai oublié son titre, je vous mettrai la pochette. Ça fait 2 donc c'est pas énorme hein, et après j'ai complètement arrêté. Mais oui, j'ai aimé. La voix du chanteur était incroyable. Et quelques très très belles chansons. Predator, Terminator, Conan, dans quel ordre classerais-tu ces classiques de Schwarzenegger? Terminator, de très très loin. Après Predator. Et après Conan, voilà, je peux pas plus développer, mais je le mettrai dans cet ordre-là. Connais-tu la série Mongrels, sorte de Muppets politiquement incorrect, c'est pas nouveau, mais ton avis m'intéresse, je ne connais absolument pas. Alors, je suis allé checker ce que c'était, ça me dit rien du tout. Il faudrait que je regarde un peu, du coup, pour voir quel genre d'humour c'est, etc., et pouvoir te donner un semblant d'avis. Je t'ai demandé il y a largement plus d'un an ce que tu pensais du film Trust Me. Ah oui, tu avais répondu que tu le mettrais dans ta liste des films à voir, et puis plus de nouvelles. Eh oui, parce que moi, des fois, vous me parlez de trucs, je les mets dans mes listes, je les vois, et puis voilà, en fait. Je sais pas comment dire. Mais du coup, j'en reparle pas, quoi. J'avais bien aimé, je me souviens assez bien du visionnage, par contre. Je comprends ce qui peut séduire, mais j'ai pas eu de coup de cœur particulier dessus. Je pense que c'est pour ça que j'en ai pas fait, enfin, que je l'ai pas rementionné par la suite. As-tu vu Sound of Metal, un film superbement interprété sur un batteur de groupe metal plutôt calme, mais d'une grande justesse? Oui, je l'avais vu. C'était très bien. Oui, c'était une grande justesse, comme tu dis, effectivement. Je voulais savoir si tu étais sensible au groupe du style Le Cri de la Mouche. Absolument pas. Vraiment, tous les groupes du style Le Cri de la Mouche, c'est pas pour moi. Est-ce que tu écoutais Running Wild? Est-ce que tu as encore des albums? On m'avait fait écouter à l'époque et j'aimais pas. J'avais pas accroché, quoi. Du coup, j'y étais pas allé. Je peux te conseiller Mother Mary, c'est assez perché, mais si tu rentres dedans, je pense que tu pourrais aimer. Genre, j'ai noté ça, donc je vais le tenter également. Team AC/DC ou Airborne? Bah, AC/DC quand même, hein, parce que la copie, bon, c'est vraiment... Enfin, on a eu quelques groupes comme ça dans le heavy metal qui copiaient totalement tous les codes dans le chant, dans les arrangements, dans les structures mélodiques. Bon, pas drôle d'intérêt, quoi. Après, Airborne, c'est très sympa, du coup. C'est vraiment AC/DC, quoi. C'est pareil. Team Wasp ou Rat? Désolé. Oh. Ouais, bâtard. Ouais, c'est dur. Pour moi, c'est dur de répondre. Mais en réalité, pas tant que ça. Rat. Mais j'aime tellement Wasp. C'est vraiment un des groupes de métal que j'écoute le plus dans ma vie, quoi. Wasp. Mais après, rate quand même. As-tu lu Satyricon de Petrone? Aujourd'hui, il serait en tôle. Le film de Fellini est incroyable. J'avais vu le film de Fellini. J'en ai pas pensé grand-chose. C'était pas trop ma cam. Même si je reconnaissais le... Comment dire? C'est halluciné, quoi. Et l'audace. Enfin, moi, j'adore la liberté de création artistique. Donc, genre, tout à fait le genre de truc que je défendrais toute ma vie, quoi. Mais j'ai pas adoré, j'avoue. Ça m'a pas parlé. Voilà, c'est ça que je veux dire. Par contre, je n'ai jamais lu. Et c'était la dernière question reçue. J'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à me poser toutes les questions qui vous passe par la tête, et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle vidéo.
Et on se retrouve avec un nouveau numéro d'Actua Ciné, celui de février 90, avec en couverture La Baule les Pins, un film de Diane Curis avec Nathalie Baye, Richard Berry, Zabou, Jean-Pierre Bacri et Vincent Lindon, un film que je n'ai jamais vu et dont je n'ai jamais entendu parler, à part sûrement en février 90. On a également Ripou contre Ripou, donc un énorme carton avec Philippe Noiret, Thierry Lhermitte, Guy Marchand, film de Claude Zidi bien évidemment. Alors, une petite publicité totalement interdite de nos jours, hein, bien évidemment. Maman, un film de Romain Goupil, avec Anémone, il semblerait, que je n'ai pas vu, donc je ne peux rien vous en dire. Pleine page de pub pour Nikita. Nikita que, attention, moi, Besson, ça n'a jamais été mon truc, mais je l'avais vu, hein, mais bof, voilà. Voilà. Ripou contre Ripou, bah, un peu comme tout le monde, j'avais trouvé ça très sympa, mais c'est pas... Enfin, j'ai jamais acheté, jamais revu même. Voilà. Je pense que je l'ai vu juste parce que c'était un phénomène, hein, quand même, cette année-là. Et puis, bon, bah, Claude Zidi, quoi. Moi, j'aimais bien, j'étais quand même bon client, ça me faisait régulièrement rire, quand même. Né un 4 juillet, chef-d'œuvre absolu d'Oliver Stone avec Tom Cruise, Mary pour toujours, je ne sais pas ce que c'est. Crime et délit, bon, bah, moi, de toute façon, hein, je le dis sans fierté, mais sans honte, dès que je vois la tête de Woody Allen, voilà, je vais ailleurs. Hein. Donc, c'est pas ma cam, voilà, tout simplement. Mais alors, du tout, du tout. Quelques publicités pour des livres qui sortaient, un livre sur Mickey Rourke, voilà, que je n'avais pas, alors que j'adorais Mickey Rourke dans ces années-là. 80, début 90, c'était encore, ça allait, quoi. Music Box de Costa... Ah putain, alors là, c'est la double page de la honte pour moi. Music Box de Costa Gavras. Je ne vois pas. Je ne vois pas ce que c'est. Et alors, par contre, Panou, avec Gene Wilder et Richard Pryor, et Kevin Spacey d'ailleurs, j'avais oublié. Bah ça, je vois. Je vois et je crois même que je l'ai en DVD. Ah voilà, voilà, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je t'explique ? Le candidat, ça ne me dit rien du tout, avec Patrick Chenet. Ok, chacun sa chance. Alors là, avec Nick Nolte, mais je l'ai forcément vu. J'ai forcément vu, mais merde, ça me dit rien. Everybody Wins. Putain, ça a l'air cool. Faudrait que je recheck. Je l'ai peut-être loué à l'époque. Enfin, à l'époque, un peu plus tard, du coup. Maintenant que j'ai enfin compris que c'était pas une revue sur les sorties en vidéoclub. Oh, au secours. Donc voilà, donc la boule les pains, hein, double poche dans ta gueule. Qu'est-ce que là, j'ai rien à dire, si tu veux. À part que fumer, c'est mal. Avant-première, donc c'est des petites news, j'imagine. Ça ne m'intéresse pas vraiment. Voilà, les nouveaux films. Alors ça m'intéresse. Alors, on va voir un peu ce que j'étais allé voir au cinéma. Chérie, j'ai rétréci les gosses. Je suis jamais allé le voir au cinéma, mais je sais que je l'ai loué. Après, en vidéoclub. Ouais, Crime et délit, ok. Ouh, petite pub pour Shocker de Wes Craven. Avec surtout la magnifique soundtrack, dont un abonné d'ailleurs m'avait parlé il n'y a pas très longtemps. Pareil, un enfant en détresse, un coup de cœur qui transformera votre vie. Les parrains de l'espoir. Oh là là. Les nouveaux films. Donc, Né un 4 juillet, Nikita. Panou. Après, ça m'étonne, je savais même pas que c'était sorti au cinéma. Parce que pour moi, c'est un film de vidéoclub pour la France, tu vois. Aux États-Unis, oui, évidemment. Mais en France, je savais pas, enfin, je me souvenais pas que c'était sorti. Je crois que le vrai titre c'était. Voilà, c'est là. See no evil, hear no evil. Et nous arrivons à la fin de ce magnifique numéro. Il était une fois dans l'Ouest. Ne prends pas les poulets pour des pigeons, mais qu'est-ce que c'est que ça? 1h25, la durée d'un film de qualité. Si. Encore une pub interdite. Et une pub autorisée. Et voilà.